Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est une enquête coup de poing qui était publiée dans la presse ce matin à propos du centre de centre jeunesse Cartier à Laval. Je précise qu'un centre jeunesse, c'est un milieu de vie opéré par la DPJ pour des mineurs, évidemment pris en charge par l'État quand ils sont retirés de leur famille. Ils sont encadrés donc par des éducateurs de la DPJ. Et la presse nous apprend ce matin qu'il y a des enfants, des ados du centre jeunesse qui sont placés en retrait, comme on dit, dans une unité qui ressemble beaucoup plus à une prison qu'à un centre de réadaptation. Une unité, pour vous donner une idée, là, à laquelle on a accès par deux portes de métal semblables à ce qu'on peut retrouver dans des prisons. Normalement, ceux qu'on met en retrait comme ça, dans cet endroit-là, là où il y a une petite chambre là, spartiate là, qui est minuscule, qui ressemble encore une fois à une cellule de prison, ben sont en crise, sont en danger, constituent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, ou alors ils sont à risque de fugue. Mais là, ce que disent les sources de la presse à l'intérieur du centre jeunesse quartier à Laval, c'est qu'il y a un recours abusif à l'isolement de ces jeunes pour des crimes, entre guillemets, aussi banals que d'avoir été agité au souper ou d'avoir refusé de manger un repas. Les éducateurs qualifient beaucoup de ces enfants qui sont mis en retraite de tannants, tout simplement. Il y a des éducateurs qui parlent de cet endroit-là comme d'une cage. Et je souligne qu'un des enfants qui a été mis en retrait avait 9 ans. Le ministre Lionel Carman a annoncé une enquête. Sa sous-ministre, Catherine Lemay, qui est aussi la directrice nationale de protection de la jeunesse, est avec nous. Madame Lemay, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Première question n'est pas de moi, elle est de Régine Laurent chez Paul Arcand ce matin, quand elle expliquait sa réaction après la lecture de l'article de la presse. On va l'écouter.
La première question qui me vient, je pense que dans ce contexte, il faut se poser la question, est-ce que les droits de ces enfants-là sont bafoués?
Donc, Mme Lemay, est-ce que les droits des enfants qui sont décrits comme ayant été isolés ce matin dans la presse, est-ce qu'ils sont bafoués?
Ben, premièrement, je suis aussi préoccupée là que Régine Laurent et tous ceux qui ont dénoncé la situation, ce sont des intervenants qui ont dénoncé la situation, parce que ce qui est paru dans le journal ce matin, est-ce que les droits sont bafoués? Ben, vous avez entendu le ministre qui, conjointement, là, on a décidé d'enquêter sur cette situation-là, mais plus largement sur les pratiques en hébergement à Laval. Et je tiens à vous dire qu'on est déjà en contact avec Laval depuis le mois de mai dernier parce que certaines situations ont posé question, certaines situations pour lesquelles il y a eu des corrections d'amener de la part du CIS de Laval, notamment l'ouverture de milieux de vie plus appropriés pour certains jeunes, plus jeunes, qui ont été sortis de Laval, de quartier, pardon, pour être mis dans des ressources plus appropriées. Donc, est-ce qu'il y a eu lésion de droit? L'avenir nous le dira. L'enquête va assurément pouvoir nous parler de ce qui doit être fait ou pas. Et le DPJ de Laval est dans le dossier également.
OK, mais vous avez lu l'article comme moi, là. Un enfant de 9 ans qui est isolé, des enfants tannants, qu'on dit tannants, qui n'ont pas mangé, qui ont été agités dans un repas, qui sont mis dans une unité de retrait qui ressemble à une prison. Est-ce que les droits de ces enfants-là, selon vous, qui êtes directrice nationale de protection de la jeunesse, est-ce qu'ils ont été bafoués?
Bon, les lieux dans lesquels les enfants ont été mis, c'est pas les lieux habituels dans lesquels les retraits pour des plus jeunes se font. L'unité dans laquelle, d'habitude, ces jeunes-là vont, qui sont pour eux le plus court temps possible, hein, parce que quand tu es retiré de ton unité, c'est parce que normalement, tu peux plus vivre dans le groupe, donc tu as un lieu spécifique qui existe à Laval, comme ailleurs dans les autres centres jeunesse du Québec, pour venir retrouver ton calme. L'unité qui habituellement était utilisée pour les plus jeunes était occupée par une surpopulation qu'il y a en jeunesse à Laval, comme dans d'autres centres jeunesse également. Donc, ils ont utilisé les lieux physiques qui, normalement, sont utilisés pour les ados. C'est pas le milieu de vie des jeunes, là, faut comprendre. Ils vont là pour une courte période de temps, le temps de retrouver leur calme, accompagné d'un éducateur avec une porte ouverte.
Madame Lemay,
c'est vrai que les lieux physiques de quartier s'apparente à un milieu sécuritaire. C'est des bâtiments qui ont été construits il y a plusieurs années. C'était fait pour être des portes barrées. C'est plus le cas. La quincaillerie a été changée, mais les lieux physiques n'ont pas été changés.
OK. Ça fait deux fois que je vous pose la question. En mes mots et en ceux de Régine Laurent, ça fait deux fois que vous ne me répondez pas.
C'est parce que, M. Lagacé, je ne peux pas concrètement vous dire est-ce que les droits de l'enfant ont été lésés sans avoir plus de détails de la situation. Ce que je vous dis, c'est que c'est préoccupant, qu'il y aura une enquête qui a été faite. C'est moi qui dirige cette enquête-là, puis les gestes vont être posés en conséquence. Et le DPJ de Laval, qui est responsable de ces enfants-là, agit également en conséquence. Fait que je peux pas vous donner plus de réponses que ce que je vous donne là.
Qu'est-ce qui vous a le plus troublé dans le reportage de la presse?
C'est sûr que l'image de grillage, ça frappe l'imaginaire, j'en conviens. Je suis d'accord. Et d'entendre que il y avait eu une augmentation assez importante des contentions et des isolements, ça aussi, ça me frappe.
Écoutez, ce que la presse a révélé, Mme Lemay, ce matin, sur la foi de commentaires d'éducateurs de Laval scandalisés qui ont décidé d'aller aux journaux et pas à la directrice nationale de protection de la jeunesse, ce serait pas à vous à révéler des affaires comme ça?
Bien, j'ai pas appris dans le journal ce matin qu'il y avait des défis à Laval, là. Puis le choix des éducateurs...
Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce genre de contention-là puis de mise en unité de retraite dans des places, dans des cellules?
Je ne savais pas spécifiquement qu'on n'utilisait plus l'ancienne unité qui servait à débordement. Non, je ne savais pas ça, mais je sais qu'il y a des contentions et des isolements qui se font en centre jeunesse, puis qu'il y a des protocoles qui sont suivis en conséquence. Et la direction de Laval m'assure que les protocoles sont suivis, c'est-à-dire que tout est documenté, les parents sont informés, que le suivi est fait.
OK. Vous êtes la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Les jeunes de Laval qui ont été incarcérés dans cette unité de retrait là pour pas avoir mangé, pour avoir été turbulents, pour avoir été tannants, selon les mots des éducateurs, est-ce qu'ils ont été protégés?
Bien, dans la mesure où on m'assure qu'ils étaient accompagnés de leur éducateur, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls dans la salle qu'on a vue, là. Pour moi, je considère qu'en tout temps, il y avait un adulte vers qui il pouvait se tourner, avec lesquels il était en sécurité. Là. C'est pas comme s'il était lancé dans cette salle-là, la porte fermée, laissé tout seul. Mais est-ce que c'est l'idéal des situations? Non, c'est pas ça, c'est pas l'idéal de la situation. Est-ce que maintenant, les jeunes, les plus jeunes, ont pu retrouver les lieux physiques plus appropriés pour avoir des retraits hors de l'unité? Oui, maintenant, c'est le cas. Et le centre jeunesse de Laval va tout faire pour ne plus utiliser les lieux dont on a vu l'image ce matin dans le journal.
Il y a une source qui travaille à la presse, à l'intérieur des murs du centre quartier, du centre jeunesse quartier, qui a dit, à propos des jeunes qu'on enferme dans ces cellules-là, on va en faire des monstres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je trouve que l'image est très grosse. Des isolements dans des lieux comme ça, c'est le dernier recours, c'est une mesure de contrôle. Et quand les enfants et les adolescents, surtout, sont mis là, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. Tous les moyens de pacification, les interventions pour lesquelles les intervenants sont formés ne fonctionnent plus.
Mais c'est pas ce que dit l'article. L'article dit qu'on en met là quand ils sont tannants, quand ils ont refusé de manger, quand ils ont été agités dans des repas, par exemple.
Moi, là, M. Lagacé, je serais surprise que uniquement parce qu'un enfant est tannant, il se retrouve là. Okay. C'est pas le motif pour lequel on va en isolement. C'est quand même une mesure de contrôle. Ça demande un comportement désorganisé où les intervenants ne savent plus quoi faire. Fait que si l'enquête nous démontre que parce que justement ils sont tannants ou parce qu'ils refusent de manger, qu'ils se retrouvent là, ben c'est pas une utilisation appropriée de l'isolement. C'est pas pour ça que c'est fait.
Bien, ce que vous êtes en train de me dire, sans me le dire, c'est que les sources n'ont pas dit tout le contexte aux journalistes de la presse.
Je ne sais pas de quoi c'est fait, M. Lagacé. L'enquête va notamment servir à ça, mais actuellement, la direction de Laval m'assure que c'est pas dans un contexte comme ça que l'isolement est utilisé.
Mais, mais les éducateurs disent que c'est le contexte dans lequel c'est utilisé l'isolement.
Bon, alors il faut faire la lumière sur la question. C'est normal que le DPJ de Laval s'implique là-dedans aussi.
OK. André Lebon, vice-président de la commission Laurent, lui dit publiquement qu'il faut aller plus loin qu'enquêter sur le centre jeunesse de Laval. Il dit qu'il faut des états généraux sur toute l'offre de services de réadaptation de la DPJ. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes. Est-ce que vous appuyez sa demande?
Ben, je suis d'accord avec lui qu'il faut aller plus loin. Puis d'ailleurs, c'est une des recommandations là, de la commission Laurent, d'avoir un chantier complet pour réviser notamment les lieux physiques, mais aussi les interventions qui sont faites en réadaptation en internat pour assurer qu'on est dans les pratiques contemporaines, là, qu'on est sur les meilleures pratiques.
OK, on va écouter. On va écouter Régine Laurent, justement, qui parle de ce chantier.
Normalement, en réadaptation, c'est un lieu de guérison. Ce sont des enfants qui ont vécu des traumas. Et je me souviens d'une jeune adulte qui a témoigné à la commission et a dit, moi, là, on me mettait là. Et le seul contact que j'avais avec l'extérieur, c'était d'entendre les clés des intervenants qui passaient dans le corridor. C'est pas normal et je ne comprends pas qu'on a une DPJ nationale qui ne vienne pas faire état de la situation.
Et Mme Laurent dit aussi, ce chantier-là, là, on en parlait quand on a déposé le rapport en 2021, on est en 2024. Est-ce que le chantier va avoir lieu un jour, sous une forme ou une autre?
D'ailleurs, c'est dans la phase 2 de la mise en œuvre du chantier de la commission Laurent. C'est dans la phase 2, donc c'est la phase actuelle. Le chantier devrait démarrer là dans les prochaines semaines. Faut comprendre que il y a un an, quand on s'est retrouvé avec plusieurs centres jeunesse qui étaient aux prises avec de la surpopulation, au lieu de partir le chantier, ce qu'on s'est assuré, c'est qu'on avait les places requises partout au Québec pour être en mesure d'héberger les jeunes. Fait que c'est vrai qu'on a dû reporter le début du chantier, mais on démarre ça dans les prochaines semaines.
OK. Écoutez, quand j'ai fait des appels aujourd'hui dans le milieu, puis j'ai demandé, j'ai dit, je vais avoir Catherine Lemay, directrice nationale de protection de la jeunesse, à mon micro, avez-vous des idées de questions? La question qui revenait souvent, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Donc, pour le bénéfice de la clarté, expliquez aux gens qui nous écoutent ce que vous faites comme directrice nationale de la protection de la jeunesse.
Monsieur Lagacé, vous me revenez souvent avec ça, le fait que je ne fais rien. Je consacre tout ce que j'ai de compétences, de connaissances et de temps à actualiser les chantiers de la commission Laurent. Premièrement, là, on est à notre deuxième projet de loi. On a avec le ministre Carman qui a déposé la révision de la loi de la protection de la jeunesse qui a été faite dans des délais records en moins d'un an. On est en train de mettre en œuvre le projet de loi commissaire qui va voir le jour bientôt. On a mis en place une série d'actions en amont de la protection de la jeunesse pour réduire les signalements, pour réduire la rétention des signalements. On est à près de 800 dossiers de moins en attente qu'à même date l'année passée. Et à la fin de l'année, on va finir avec moins de signalements reçus, retenus. Ça veut dire qu'il y a des moyens qui ont été mis en amont pour que les enfants reçoivent des services quand ils n'ont pas besoin des services de protection de la jeunesse. Ça se fait pas en étant assis sur sa chaise en regardant le temps passé. Et je vous assure que tout est fait pour que le maximum pour les enfants soit fait parce que je suis consciente que chaque jour qui passe, c'est des enfants qui grandissent qui n'ont pas ce qu'ils ont besoin d'avoir. L'autre chose qui est importante à retenir, c'est que au-delà de la protection de la jeunesse, tout ce qui est fait en petite enfance, en prévention, c'est essentiel si on va avoir des résultats dans 10-15 ans, puis qu'on se retrouve avec les petits d'aujourd'hui qui vont être des ados demain, qui ne se retrouvent pas dans le même cercle que les ados sont aujourd'hui. Donc, je pourrais vous en parler plus, là, mais disons que les grands pans de mur de ma job sont là actuellement.
Merci d'être venu à notre micro, Mme Lemay. Je souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
À la prochaine. Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est peut-être pas une bonne idée que si vous êtes employé à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui se trouve dans la ville de Montréal, au Québec, de dire à un député du Bloc québécois, non, je ne vais pas te servir en français, puis de pas l'envoyer promener, mais de faire comprendre que ça vous emmerde qu'il demande ce député à être servi en français. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Il est au bout du fil. On le joint à Washington. Bonjour, M. Garon.
Bonjour, M. Lagacé, ça va bien?
Oui, vous, ça allait pas bien cet après-midi, si j'ai bien compris.
Ben, à part pour le français à Montréal, ça va plutôt bien.
Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal-Trudeau, dans votre cas?
Ben, je trouve ça, vous l'avez bien résumé, mais je trouve ça drôle ce que vous dites. Vous dites, c'est pas une bonne idée d'envoyer promener un député bloquiste qui demande d'être servi dans une des langues officielles, parce que je suis assez convaincu que si j'avais pas été député, j'aurais été identifié comme une personne turbulente. Et parce que je suis député, puis bon, essentiellement que j'ai demandé d'être servi en français, les gens, les superviseurs à l'aéroport sont allés voir cette personne-là, l'ont enlevé de la circulation possiblement pour la journée. Il y a un agent de Securitas qui est allé enlever l'employé. Mais essentiellement, on arrive, puis on demande d'être servi en français, d'être accueilli en français, puis c'est unilingue anglais. Et je vous assure, M. Lagacé, poliment. Fait poliment. Et la réponse, c'est, on me pointe le drapeau du Canada sur l'uniforme en me disant, you're in Canada here, it's English. Et quand je dis, je demande d'être servi dans une langue officielle, la réponse c'est, go try that with the Americans. Parce que c'était avant la douane américaine. Go try and see what happens. Ça, c'est la réponse. Et quand je redemande d'être servi en français, je me fais crier après. Et c'est tout à fait anormal. Et malheureusement, moi, j'ai assez d'expérience à Dorval. Vous comprendrez que, étant député de Mirabel, j'appelle encore ça Dorval. Vous comprendrez que ça arrive assez souvent. Et je vais me permettre une petite histoire.
Juste une seconde. Monsieur Garon, je m'excuse de vous interrompre, mais je veux juste, avant de me raconter une autre histoire, là, donnez-moi les faits. Vous étiez où au moment où vous vous êtes fait dire, moi, je parle pas français?
Ah, ben j'arrive à la ligne qui nous mène à la douane américaine. Un agent fédéral qui nous demande notre passeport, demande la carte d'embarquement avant d'y accéder. Tout ça, c'est en anglais seulement, juste avant les lignes pour les douanes américaines. Alors, c'est des employés fédéraux. Je demande à être servi en français. Je demande, s'il vous plaît, en français. Et c'est là que l'altercation commence. On me le refuse, on me crie après, on m'insulte. Alors, je suis allé passer les douanes et je suis allé voir un superviseur. Et j'ai porté plainte et il est arrivé la suite. Et sachez, pour ceux qui en doutent, que je vais porter plainte au commissaire aux langues officielles. Et les gens qui nous écoutent à la maison, sachez que c'est important de porter plainte au commissaire aux langues officielles. Non seulement on a le droit de se faire parler français dans les services fédéraux, mais il faut le demander. Et ce que j'allais vous dire, c'est que moi, vous savez, j'ai grandi dans le nord du Québec, dans une petite ville en Ungava, Lebel-sur-Quévillon. Moi, j'ai grandi en français. Et quand je suis arrivé en 2001 à Montréal pour mes études, je travaillais dans un magasin de vêtements au Centre Eaton et je pouvais pas être vendeur. J'ai les mains cicatrisées d'exacto parce que j'étais stock boy en arrière, parce que mon anglais n'était pas assez bon pour être vendeur à Montréal. Et j'ai passé des années à faire ça. Et finalement, j'ai appris l'anglais. Pour ceux qui pensent qu'on manque de culture, qu'on demande d'être servi en français, je suis allé faire mon doctorat en anglais. J'ai fait des conférences partout dans le monde. J'ai enseigné à l'Université Queen's en Ontario. Et ce n'est pas un manque de culture que d'essayer d'être soi-même. On ne peut pas penser que la diversité des cultures dans le monde a une valeur si on se refuse nous-mêmes comme Québécois à y participer.
Qu'est-ce qui est arrivé au superviseur que vous avez dénoncé, M. Garon?
Ben, la personne m'a compris. Là, vous comprendrez, on est à l'aéroport. Moi, j'avais l'air de rien, un avion à prendre. Le superviseur a été très courtois avec moi. Il m'a dit que c'était absolument inacceptable. Je lui avais dit que j'étais député. J'ai dit, moi, je suis député. Puis sachez que je vais le dénoncer, ça. Alors, c'est sûr que l'incitatif à être poli est assez grand. Et j'ai été, somme toute, bien traité. On me dit que la sécurité allait retirer cet employé-là de la circulation pour la journée. Et est-ce que j'ai pu le vérifier? La réponse était non. C'était avant la sécurité. Alors c'est ce qui est arrivé. Mais c'est commun, hein? C'est commun. Moi, je suis allé à, imaginez, Dorval jusqu'à l'aéroport de Saguenay il y a quelques semaines. Puis il y avait une annonce unilingue anglais d'Air Canada. Puis, et quand on met ça sur les réseaux sociaux, les gens disent encore un souverainiste enragé, unilingue, sans culture, qui invente des histoires. C'est complètement hallucinant le fait qu'on est désensibilisé au manque de respect. Désensibilisé au fait qu'on essaie de nous effacer.
Racontez-moi la fois où vous avez raté votre vol parce que vous avez demandé à vous faire servir en français.
C'est vrai, je raconte. Ben, c'est parce que moi, j'ai pas toujours été député. Je suis professeur d'université. Puis il est arrivé une fois où c'était avec WestJet, je pense. Puis on me parlait en anglais. C'était à Edmonton. Et j'ai demandé de servir en français. Puis, effectivement, il n'y a pas eu lieu de le faire. J'ai été très maltraité. Puis sachez une chose, M. Lagacé, c'est que il y a des gens qui pensent qu'on est obstiné, mais on a le droit de demander un service en français lorsqu'il est question de services fédéraux, et on doit le demander. Parce qu'à Montréal, à Québec, à Val-d'Or et à Baie-Comeau, on les donne ces services-là en anglais lorsque c'est des services fédéraux. Et on a le droit, nous, comme Québécois, de s'imposer et de se respecter. Alors moi, je ne me gêne pas pour le demander. J'ai déjà aussi été identifié comme passager turbulent sur un vol Tokyo-Vancouver pour avoir demandé d'être servi en français sur Air Canada. Et savez-vous quoi? Je prends Air Canada pour être servi en français. Parce que quand on a été dans un voyage de travail de 2 semaines, on était au Japon, on a présenté dans des conférences, on était dans des universités, puis on a hâte de revenir à la maison, on a hâte de l'entendre, le français. Même si ça atterrit à Vancouver. J'y crois à ça. Mais évidemment, moi, vous savez, je suis souverainiste. Puis je pense que tant que les Québécois n'auront pas un État et disposeront pas de tous les leviers de leur développement, je pense qu'on va toujours être en mode défensif pour se faire reconnaître.
OK. En terminant, parlez-moi de votre trompette. Vous faites de la trompette, puis ça a pas mal intrigué la sécurité à l'aéroport d'Orval, comme vous l'appelez.
Oui, bien ça, je jasais avec votre recherchiste d'entrée de jeu, puis c'est très, très drôle, parce que vous savez, c'est l'instrument où on traîne l'embouchure quand on part pas longtemps, juste oui. Pour souffler, pour maintenir les muscles. Et il semble que sur l'écran qui scanne nos bagages, ça ressemble à une pipe à crack. Alors, sachez que non seulement ça n'était pas une, mais que lorsque j'ai demandé des services en français, j'étais absolument sobre.
C'est toujours un plaisir de vous parler, M. Garon. Vous êtes un excellent raconteur. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Et j'ai envie de vous dire, have a very nice day.
Ah, vous aussi.
Merci, bonne journée. Salut. C'était Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Écoutez, il est, il est plus exigeant que moi. Hors du Québec, je vous le dis, me bat pas. Même avec Air Canada, là, ça va. À Montréal, qu'un Québécois francophone se fasse dire ça, je trouve que ça n'a aucun bon sens, mais c'est aussi symptomatique, je dirais, de l'époque. Ça en dit plus long, je pense, sur l'époque que sur autre chose. On le sait, au Québec, il y a des perceptions, des attitudes différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs sur le continent face à la religion. On a eu ici une révolution tranquille où il y a eu un rejet massif de la religion catholique. Et disons que la frilosité qu'on peut avoir maintenant, ça s'étend à pas mal toutes les religions. Ça explique, par exemple, la loi 21. Sur Instagram, je suis un humoriste québécois très sympathique qui s'appelle Bruno Lee et qui est un immigrant. Il est arrivé au Québec il y a 20 ans et il a entrepris, dans cette vidéo que j'ai vue en fin de semaine, d'expliquer aux nouveaux arrivants au Québec pourquoi les Québécois sont si frileux face à leur religion. On va en écouter un extrait.
Parler de l'Église à un Québécois de 72 ans, c'est comme parler de la guerre du Vietnam à un Américain du même âge. Tu manges avec des baguettes, fiston? Tu me rappelles? L'ennemi! L'immigration, à mon humble avis, c'est une question de compromis. C'est un échange. Je m'attends pas à avoir des microbrasseries en Arabie Saoudite. Hey, les amis, une IPA juste avant la prière? Il faut comprendre, le Québec et la religion, c'est comme un black sur des skis, ça fait pas bon ménage.
Ça donne le ton, Bruno Lee est en studio. Salut Bruno.
Salut Patrick.
D'abord, avant qu'on parle de religion, parle-moi de toi.
Ben moi, en fait, je suis au Québec depuis 1998, juste après la crise du verglas. Je suis venu faire mes études ici, secondaire, cégep.
Du Sénégal.
Non, moi, c'est compliqué. J'ai un parcours compliqué.
On a le temps.
Je suis un agent de la CIA, en fait. de la France, en fait. Je suis né en France. J'ai vécu un peu partout en Afrique grâce au travail de mes parents.
Tu faisais quoi?
Ils étaient agents secrets aussi, puis ça va de...
Non,
ça va pas. Mon père, en fait, il travaillait pour les Nations Unies. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une institution qui est très critiquée.
Ouais.
Mais à l'époque, il travaillait là-dedans, il a évolué là-dedans. Et puis, ça nous a permis de découvrir... j'ai eu la chance de découvrir plein de pays, les pays d'Afrique... la France, le Canada.
Donc, tu es arrivé au Canada, au Québec, de ton propre chef. Tu n'es pas arrivé avec tes parents parce que tes parents ont décidé de venir habiter ici.
Non, j'ai demandé à mes parents de venir découvrir le Canada au téléphone quand j'étais au pensionnat en France, parce que j'ai fait le pensionnat en France. Et si tu dors là-bas, tu étudies là-bas, on porte tes cravates.
Oui, oui, OK.
Un vrai Harry Potter Black, quoi.
Donc, tu arrives au Québec.
Oui.
Et là, ben, il y a toutes sortes de chocs, j'imagine, l'hiver, etc. Mm-hmm. Mais comment tu découvres le fait que les Québécois sont frileux face à la religion?
Moi, j'ai pas découvert ça dès le début. Moi, c'est ces dernières années, en fait. Depuis que je suis avec ma conjointe, qui, elle, est, il n'y a pas plus québécoise qu'elle. Elle a grandi avec la petite vie, lavalloise. Et, depuis que je suis en couple avec elle, c'est là que vraiment je me suis imprégné de la culture québécoise. Vraiment. Que j'ai commencé à écouter, à regarder autour de... à développer un certain...
OK. Et pourquoi Bruno Lee, t'as eu cette idée, cette envie d'expliquer aux immigrants, aux gens qui arrivent ici comme toi, t'es arrivé ici il y a plus de 20 ans,
ouais.
25 ans même. Écoutez, groupe, voici comment les Québécois en sont venus avoir cette frilosité face à la religion. C'était quoi le déclencheur?
Bon, vous savez, on parle souvent d'intégration, mais je pense qu'il y a une clé pour une intégration réussie. Parce que je crois qu'il y a une différence entre vivre ici et évoluer ici en tant qu'immigrant. Et pour te permettre d'évoluer, il faut que tu connaisses vraiment le pouls de la société dans laquelle tu essaies d'intégrer. Et puis moi, c'est à force de consommer les nouvelles, écouter les opinions des gens, regarder autour de moi, faire des spectacles à travers la région, que j'ai remarqué vraiment qu'il y avait une réticence par rapport à ça. Et c'est la majorité, je dirais, en fait.
C'est la majorité de... Finis ta phrase.
La majorité des gens que j'ai rencontrés. Ouais, je ne suis pas allé partout non plus, mais...
Mais c'est intéressant, cette nuance entre vivre ici...
Et
puis,
évoluer
ici. Mm-hmm. Puis c'est ça le message que tu voulais envoyer.
Oui, parce que moi, je ne veux pas juste que les... Je suis un immigrant, je me vois en eux à chaque fois. Quand j'en vois un, tu sais, je veux dire, c'est pas un personnage dans un dessin animé non plus, mais...
Mais tu fais souvent des vidéos qui s'adressent aux immigrants.
C'est parce que j'ai une affection... naturel pour les migrants qui viennent s'installer au Québec, mais j'ai pas le goût qu'ils viennent juste survivre ici. Je veux qu'ils jouissent de tous les bienfaits de la société québécoise et des Québécois aussi. Et je vais vous le dire franchement, il y a pas tant de différence entre vous et moi. Okay. À part que peut-être que toi t'as un chalet, mais
j'ai pas de chalet.
Il y en a pas, je confirme.
Mais de toute façon, si tu dis t'es arrivé en 98, là t'es Québécois. Est-ce que tu te considères comme Québécois? Et où la ligne entre tu te dis je suis immigrant et là je suis Québécois?
Parce que surtout quand on vit à Montréal, on peut vivre ici sans vraiment évoluer à l'intérieur de la société québécoise proprement.
En vase clos, là.
Par
la langue aussi, beaucoup?
Ben, par la langue et par les expériences, c'est-à-dire à Montréal, on se le cachera pas, on peut vivre avec juste des gens qui nous ressemblent, le même parcours, parce que on recherche toujours le confort quand on quitte un pays. C'est naturel de rechercher le confort,
bien sûr.
Et on va pas nécessairement vers l'autre, c'est-à-dire les Québécois, si je peux pas me trouver un autre terme, les Caucasiens, ceux qui habitent ici. Et peux vivre ici sans vraiment fréquenter de Québécois ou de...
Ça arrive ici, je sais pas moi, du Liban ou du Congo, je pense que ton premier réflexe, c'est de trouver l'ami de ton cousin congolais qui est à Montréal.
De cultiver ce sentiment de sécurité.
Bien sûr.
À un moment donné...
C'est pas normal.
Pour répondre à ta question, je trouve que ça nuit à un moment donné, le confort. Parce que si tu viens en tant qu'immigrant, tu joues pas à la maison. T'es away. Moi, j'adore le football, j'adore le sport et tout ça. T'es pas à la maison. Tu joues à l'étranger, exactement. Et quand tu joues à l'étranger, t'es désavantagé.
Mais en fait, je suis juste curieuse. Est-ce que la clé, c'est d'aller justement en région?
Non.
Est-ce que c'est ça que ça dit, non?
C'est pas d'aller nécessairement en région. Oui, ça peut être une solution si on cherche de l'emploi, parce qu'on sait que la concurrence est grande à Montréal dans certains secteurs. Mais je pense que aller vers l'autre, c'est-à-dire la personne qui... Garde, moi, je vais citer moi comme exemple. La plupart des emplois que j'ai trouvés, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui était déjà dans, dans la compagnie. Je connaissais quelqu'un qui avait déjà un réseau. Mais quand tu viens en tant que nouveau arrivant ou nouvel arrivant avec d'autres nouveaux arrivants, vous faites juste tout ensemble, tout le temps, votre quotidien, et vous faites juste traîner ensemble, ben, tu n'as pas accès à ce réseau-là. Parce que tu es toujours dans le confort, tu es toujours dans la familiarité.
Donc, c'est plus une histoire d'attitude que de région propre à comme Montréal ou ailleurs. Ça veut dire que c'est, l'ouverture, c'est de s'ouvrir aux autres, c'est de ne pas toujours se tenir avec sa famille, son groupe. C'est sortir de sa zone de confort, dans le fond.
Exactement. Et puis je parle d'immigrants, d'Africains, des gens qui viennent d'Afrique noire ou du Maghreb, mais il y a aussi les Français, c'est pareil. Il n'y a pas juste les Noirs et les Maghrébins qui sont immigrants. Ouais, j'ai perdu mon... C'est la beauté de votre studio qui m'a fait perdre mon train de pensée.
J'en profite pour poser une question, Bruno Lee. Bon, t'es humoriste, ça fait 25 ans que t'es ici. Tu m'as dit, bon, t'as habité en France. Mm-hmm. C'est quoi la différence entre être immigrant en France ou ici?
Alors moi, j'avais 15 ans quand j'ai quitté la France.
Okay.
La différence, c'est que... Pour être honnête avec toi, Patrick, il faudrait poser la question à quelqu'un qui vraiment a mon âge et qui vit en France et qui est un immigrant.
Je t'en pose une autre.
Oui.
Comment tu vis le débat actuel très enflammé sur l'immigration?
Moi, je suis un peu inquiet par rapport aux immigrants parce que je pense que parfois on leur dit pas nécessairement, on n'est pas transparent avec eux.
De quelle façon?
Quand je dis on, je parle de la diaspora, de ceux qui vivent ici depuis longtemps. On leur dit pas nécessairement que, regarde, l'immigration c'est pas juste une transaction, c'est pas juste j'ai mes papiers, j'ai mes diplômes ou je fais mon équivalence de diplôme et puis tout va bien aller. Quand je parle d'évoluer ici, c'est aussi établir un contact avec les personnes qui sont dans les institutions, qui font les entrevues d'embauche, qui donnent des visas. On est tous des personnes. On a tous des expériences qui font en sorte qu'on... Regarde, si j'avais pas fait de la vidéo, on n'aurait pas connecté.
Absolument.
Je serais pas dans ce beau studio aujourd'hui. J'aurais été juste un bonhomme qui fait des vidéos drôles avec le Wi-Fi de sa blonde.
Tu vois? Des vidéos très drôles.
Donc, je pense que c'est pas, il faut pas juste voir ça comme une transaction parce que je pense qu'au Québec, et je peux me tromper, les gens priorisent la personne avec laquelle on fait affaire. Avant de t'acheter tes services, ton produit, je vais t'acheter toi. Est-ce que je t'aime? Est-ce que je me vois prendre une bière avec toi? Et ça, je pense que c'est ce qui me manquait aux mes 10 premières années ici.
OK. En terminant, Bruno Lee, t'es fait venir ici parce que la vidéo, je trouvais ça intéressant. C'est un point de vue que j'avais jamais entendu de la part de quelqu'un qui est pas, je dirais, là, qui est pas un Québécois de souche, entre guillemets. Là. Je trouvais ça très intéressant comme point de vue. Mm-hmm. Si t'avais un conseil, là, quelqu'un nous écoute, là, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé et il cherche ses repères, il veut s'intégrer. C'est quoi ton conseil?
Sors de ton réseau qui t'est familier, c'est correct, les 6 premiers mois, je dirais. Mais après... Il faut que c'est une guerre psychologique avec toi-même. C'est l'immigration égale pas facile. Quand c'est pas facile, il faut faire des étapes qui sortent de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta psychologie. Il faut que tu en développes une nouvelle. Va vers quelqu'un qui te ressemble pas. Va vers quelqu'un qui justement fait du ski ou un Québécois ou quand je dis Québécois, c'est pas nécessairement un Caucasien. Ça peut être quelqu'un comme moi aussi.
Oui, parce que t'es un Québécois.
Exactement.
Oui, oui. Comme avec ta blonde. Exact. Vous êtes différents,
vous êtes et vous aussi, tu sais, tout le monde peut finir à Laval avec une blonde lavalloise. Oui.
Faire des vidéos.
Bruno, je te laisse pas partir sans que tu plugues ton prochain spectacle.
Alors, mon prochain spectacle, c'est au Terminal Comedy Club, samedi le 9 mars à 22h. Bon, je sais que les Montréalais, vous avez beaucoup d'énergie. Hein?
Ouais.
c'est dans le plateau, justement.
Ouais,
donc,
sur Mont-Royal.
Sur Mont-Royal, exactement.
Parfait. Merci, ça a été un plaisir.
Merci, Patrick.
Si les gens veulent aller voir ta page Instagram pour rire et réfléchir comme je le fais, souvent, c'est Bruno Lee, L-Y. Merci d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler de rougeole. C'est une maladie souvent infantile qu'on pensait éradiquée depuis le début des années 2000. Ben, ces derniers temps, les autorités de santé publique des États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé ont alerté sur le fait qu'il y a une recrudescence des cas de rougeole, qui est une maladie qui peut avoir des conséquences très graves. Et on l'a vu, il y a une réticence vaccinale qui s'est manifestée pendant la pandémie. Ça existait avant, mais disons que le paroxysme a été atteint pendant la pandémie de COVID-19. Beaucoup de gens qui sont tombés dans les sables mouvants de la désinformation, des théories du complot et qui prêtent toutes sortes de, disons, d'effets maléfiques aux vaccins et qui refusent de se faire vacciner, qui refusent de vacciner leurs enfants. Ça touche pas seulement le vaccin contre la COVID, ça touche aussi la rougeole. On va en parler avec Dr. Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue à l'hôpital Sainte-Justine. Elle était avec Dr. Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec aujourd'hui en conférence de presse. Docteur Couache, bonjour.
Bonjour.
Premièrement, c'est quoi la rougeole et c'est quoi les symptômes?
Alors, c'est une maladie virale qui se transmet par aérosol. Les symptômes, c'est fièvre, nez qui coule, yeux qui coulent, de la toux, on se sent misérable, puis on a une éruption cutanée, le maculopapulaire, donc des boutons rouges partout et c'est fort désagréable.
Et j'allais vous demander, quand attraper la rougeole, c'est pas sans conséquences. Il peut y avoir des conséquences à long terme qui sont assez graves, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Ben déjà à court terme, là, pendant qu'on a la rougeole, une personne sur 10 aura une pneumonie, une personne sur 1000 peut avoir une inflammation du cerveau, une personne sur 3000 peut en décéder. Mais je pense que ce qui est le plus fatigant et inquiétant, c'est la complication tardive qui est la panencéphalite sclérosante subaiguë ou SSPE en anglais, où le virus reste dormant dans le cerveau et éventuellement peut entraîner une inflammation qui entraîne vraiment des pertes là, de nos fonctions cognitives et peut entraîner la mort. Et ça survient 10 à 20 ans après une rougeole et le risque de développer cette complication-là est évalué à 1 sur 600 à peu près pour les enfants de moins de 12 mois. Donc, c'est vraiment quand on attrape la rougeole jeune qu'on est plus à risque de faire cette complication-là.
La santé publique américaine a sonné l'alarme fin janvier là, sur la foi d'une trentaine de cas. Ici, on sonne l'alarme à une dizaine de cas. Expliquez aux gens qui pensent que c'est assez peu là, comme nombre de cas. Pourquoi c'est quand même inquiétant?
C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais comme vous l'aviez dit, la rougeole, on est en phase d'élimination. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a eu de la rougeole au Québec, c'était en 2019. On a eu une poignée de cas. La fois précédente où on en avait eu davantage, c'était en 2011, où on en avait eu 750. Mais tout ça pour dire que quand il y a un cas de rougeole qui arrive sur notre territoire, et qu'en plus il se transmet, ça veut dire qu'il y a une couverture vaccinale qui est pas assez élevée pour ériger des barrières de protection autour du cas qui arrive. Parce qu'évidemment, souvent, les premiers cas, c'est des cas qui arrivent à la suite d'un voyage. Donc, il y a des cas de rougeole qui surgissent un peu partout là, depuis plusieurs mois, puis c'est pour ça que l'OMS avait lancé l'alerte. Mais quand des Québécois voyagent et reviennent et qu'à partir de ce cas-là, réussissent à le transmettre à d'autres, ça veut dire qu'autour de cette personne-là, la protection vaccinale n'était pas suffisante. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se mette à se transmettre à large échelle et à se mettre à ce moment-là à exposer des personnes qui sont soit trop jeunes pour être vaccinées ou dont le système immunitaire est trop fragile pour être capable d'être vacciné.
Pourquoi la couverture vaccinale concernant la rougeole a baissé au point où les autorités de santé publique, là, je regardais des nouvelles en Europe, là, un peu partout en Occident, se sentent obligées de sonner l'alarme?
Elle avait baissé graduellement. T'sais, depuis l'article là, qui avait été publié dans le Lancet par Wakefield, puis ensuite retiré, il y avait eu un début d'hésitation face à la vaccination. On avait réussi à récupérer un peu face à ça, Mais avec la COVID, est-ce une plus grande difficulté à se faire vacciner ou des parents qui disent, bof, on a tellement vacciné contre la COVID, on veut plus rien savoir, on va prendre un peu de retard sur les vaccins de routine, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de rougeole, donc pourquoi s'inquiéter? C'est sûr que plus on a de gens qui ne sont pas adéquatement protégés, plus on a des risques de voir cette maladie-là se propager.
Docteur Kouach, il y a beaucoup de persuasion, disons, personne à personne qui est nécessaire au-delà des messages de la santé publique. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce qu'un pédiatre, une pédiatre peut dire à des parents qui ont des réticences à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole pour les convaincre?
Ben, je pense que la première chose, c'est de comprendre où est cette réticence-là. Je pense pas qu'un message, ce soit le même message pour tous. Il faut vraiment comprendre où ça en est et les prendre à partir de ce niveau-là. On a des techniques d'entretien motivationnel là, qui ont été développées, entre autres, par Dr. Arnaud Gagnère à Sherbrooke, où il est capable d'expliquer aux parents de façon simple. Puis je pense que c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Pourquoi est-ce qu'il y a un avantage pour son enfant et pourquoi est-ce que les craintes que le parent soulève ne sont pas appuyées par la science? Donc, c'est vraiment ces discussions-là qu'il faut qu'on ait un à un, là, comme vous le disiez. Mais à ce moment-là, il faut évidemment connaître nos patients puis avoir établi à la base une relation de confiance avec eux pour qu'on soit capable de leur parler. Il y a des programmes d'entretien motivationnel aussi qui sont en place dans les dans toutes les pouponnières, là, puis les maternités du Québec, où des travailleurs de la santé qui ont une connaissance en vaccination rencontrent les parents juste après l'accouchement et répondre à leurs questions. Parce que c'est vraiment ça qu'on veut, là, c'est répondre aux questions pour pas qu'on se mette à fouiller sur l'Internet et tomber sur des informations qui sont plus ou moins vraies. Parce que quand on sait pas exactement où chercher, parfois on finit par tomber sur de l'information qui est fausse. Et je vais vous avouer que c'est souvent très difficile de faire la part des choses quand on n'est pas dans le domaine.
Merci d'avoir été avec nous, Dr. Kouach.
Merci, bonne fin de journée.
Bonne journée. Caroline Kouach, pédiatre, microbiologiste, infectiologue à Sainte-Justine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.